5h30 en temps universel au micro Nanit Talani. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui. Voici les principaux titres de cette édition de ce lundi 29 juillet 2024. Dans le nord du Mali, une coalition de rebelles Touareg disent avoir infligé de lourdes pertes à l'armée dans la localité de Tizawatene, dans la région de Kidal. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma exclu de l'ANC pour avoir dirigé un parti concurrent. Libye, peine sévère pour les responsables des barrages après les inondations meurtrières de Derna. Israël promet de représailles après le tir de roquettes qui a tué 12 jeunes sur le Golan. Mégafeu en Californie et ici aux États-Unis, le Park Fire devient l'un des plus destructeurs de l'histoire de l'État. Résultats et performances des athlètes africains lors des premiers jours des JO de Paris. Ce sera notre rendez-vous sportif. Notre segment magazine nous conduira au Mali, où les inondations ont causé des dégâts importants dans le cercle de Ba. Puis, les défis de la gestion des dégâts face à l'incivisme et aux difficultés financières à Yaoundé au Cameroun. En attendant, voici le journal. Les séparatistes maliens ont revendiqué dimanche ce qu'ils appellent une victoire écrasante contre l'armée malienne et ses alliés russes après 3 jours d'intenses combats à Tizawatene dans le nord du pays près de la frontière algérienne. Le point avec Rosine Mounezero.
Des combats d'une ampleur inédite depuis des mois ont éclaté jeudi entre armées et séparatistes dans la localité de Tizawatene, alors que l'état-major avait annoncé avoir repris dernièrement plusieurs localités dans sa mission de reconquête du territoire. Nos forces ont définitivement anéanti ces colonnes de l'ennemi samedi. Les rares survivants des rangs FAMA et de la milice russe Wagner ont été faits prisonniers, dit un communiqué du porte-parole d'une alliance des groupes armés séparatistes à dominance Touareg, CSP-DPA, indiquant que côté forces armées de l'Azawad, 7 soldats ont été tués et 12 blessés. Du côté des forces armées maliennes et de leurs alliés russes, aucun bilan consolidé n'est disponible. Le porte-parole des séparatistes a transmis à l'AFP plusieurs vidéos où gisent de nombreux cadavres. Dans certaines vidéos, des soldats blancs sont visibles parmi les prisonniers. Dans un communiqué, l'armée malienne a affirmé que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, les unités FAMA ont patrouillé dans le secteur de Tizawatene depuis 3 jours, ont amorcé leur mouvement de retrait, ajoutant que la zone est sous surveillance et que la situation est particulièrement suivie.
La justice en Guinée rend mercredi son verdict dans le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Un moment de vérité pour les victimes et leurs familles qui attendent cette décision depuis près de 15 ans. J'espère que les accusés seront condamnés pour crimes contre l'humanité et qu'une réparation conséquente sera accordée aux victimes afin de leur permettre de tourner cette sombre page de leur vie. J'interpelle l'État sur sa responsabilité de protéger les victimes ainsi que leurs familles après le verdict, a déclaré Alpha Amadou Ba, principal avocat des parties civiles. La commission disciplinaire de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a décidé d'exclure de ses rangs l'ex-président Jacob Zuma pour avoir dirigé un parti concurrent aux élections de mai, rapporte la presse locale qui cite un document ayant fuité. Le membre accusé est exclu de l'ANC, le Congrès national africain, indique ce document daté du 29 juillet. Il est accusé et il a le droit de faire appel devant la commission disciplinaire nationale d'appel dans des 21 jours, précise le texte. 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés en Libye à des peines de 9 à 27 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur les inondations meurtrières de Derna dans l'Est en septembre dernier, indique le procureur Gabi Dorsila.
Le tribunal pénal de Derna a rendu un jugement dimanche condamnant 12 personnes, les fonctionnaires chargés de la gestion des barrages dans le pays, a indiqué le bureau du procureur. 5 des accusés ont été condamnés à des peines allant de 19 à 27 ans de prison et 7 à des peines de 9 ans de prison. 8 des condamnés, dont l'ex-maire de Derna, sont déjà incarcérés depuis le 25 septembre dans le cadre de cette affaire. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2023, la tempête Daniel qui a frappé la côte est de la Libye avait provoqué des inondations amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40 000 déplacés. En janvier, un rapport de l'évaluation rapide des dégâts et des besoins de la Libye, RDNA, avait estimé à 1,8 milliard de dollars les coûts de reconstruction de la ville sinistrée et des zones alentours dévastées. La catastrophe a touché environ 1,5 million de personnes, soit 22% de la population libyenne, vivant dans les villes côtières et intérieures les plus sévèrement touchées, selon le rapport conjoint de la Banque mondiale, l'ONU et l'Union européenne.
Au Soudan, les paramilitaires et l'armée se sont livrés à des violences sexuelles généralisées à Khartoum et ses banlieues. Dans le cadre de la guerre pour le pouvoir qui les oppose au Soudan, s'alarme ce lundi l'organisation Human Rights Watch. L'ONG, basée à New York, indique avoir recueilli les témoignages de 42 soignants et acteurs de terrain faisant état de 262 cas de violence dans la capitale soudanaise entre le début de la guerre en avril 2023 et février 2024. Ces violences touchent principalement des femmes et des filles âgées de 9 à 60 ans et comprennent des viols et des viols collectifs, décrit l'organisation dans un rapport publié ce lundi. Ce rapport de 88 pages décrit également les conditions qui pourraient s'apparenter à de l'esclavage sexuel. Si la plupart des témoignages pointent les paramilitaires, l'armée est aussi mise en cause.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël promet de frapper l'ennemi avec force au lendemain d'un tir qui a tué 12 jeunes sur le plateau syrien au Golan annexé, imputé au Hezbollah libanais, faisant craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. L'Iran a mis en garde Israël contre les conséquences d'une attaque de représailles au Liban. Toute action peut conduire à l'aggravation de la guerre dans la région, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani. D'après Israël, un tir de roquette depuis le Liban sur un terrain de football dans la ville de Majdan Shams a causé la mort samedi de 12 garçons et filles âgés de 10 à 16 ans et en a blessé environ 30. Un garçon de 11 ans, d'abord porté disparu, s'est révélé être la 12e victime, a indiqué la police dimanche soir d'après les médias israéliens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a estimé hier que le Hezbollah libanais avait franchi toutes les lignes rouges après le tir de roquettes samedi depuis le Liban, donc ce tir qui a fait 12 morts sur le plateau du Golan syrien annexé en grande partie par Israël. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'armée israélienne a indiqué samedi que le Hezbollah avait tiré la roquette qui a fait 12 morts et environ 30 blessés. Des jeunes âgés de 10 à 16 ans qui jouaient sur un terrain de football à Majdal Shams. Avec ce massacre, le Hezbollah a franchi toutes les lignes rouges. Il ne s'agit pas d'une armée qui combat une autre armée, mais d'une organisation terroriste qui tire délibérément sur des civils, a affirmé le ministère dans un communiqué. La roquette qui a tué nos garçons et nos filles était une roquette iranienne et le Hezbollah est la seule organisation terroriste qui en possède dans son arsenal, a ajouté le ministère, soulignant qu'Israël exercera son droit et son devoir d'autodéfense et répondra à ce massacre. Le Hezbollah, mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran, a nié être à l'origine du tir meurtrier, un démenti rejeté par le ministère israélien des Affaires étrangères. Après cette frappe meurtrière, le Liban a appelé dimanche à une enquête internationale.
Les pompiers ont continué de combattre le méga-feu qui ravage le nord de la Californie aux États-Unis dimanche, dans des conditions de plus en plus propices à sa progression avec des vents renforcés et des températures en hausse, d'après les autorités. Le parc Fire, qui a démarré près de la petite ville de Chico, avait dévoré plus de 144 500 hectares, d'après les estimations hier, rapporte l'agence étatique Cal Fire, devenant le 7e incendie le plus destructeur de l'histoire californienne. L'incendie a jusque-là provoqué l'évacuation de 4200 personnes du comté de Butte et brûlé dans une région montagneuse à environ 145 km de Sacramento, la capitale de l'État.
Environ 4000 agents, des moyens aériens et des bulldozers sont mobilisés contre cet incendie qui n'a pas encore fait de morts. Il a cependant détruit ou endommagé 67 bâtiments. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré ce lundi à Tokyo ses homologues du Japon, de l'Australie, de l'Inde lors d'une réunion de l'agence Quad à l'issue de laquelle devrait être publiée une déclaration appelant un Pacifique libre et ouvert ciblant implicitement la Chine. Sans la nommer directement, l'appel de M. Blinken et des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance Quad, États-Unis, Japon, Australie, Inde, sera perçu comme une référence à la Chine après une série d'affrontements entre des navires chinois et philippins en mer de Chine méridionale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Bonjour à tous. Les Jeux Olympiques de Paris ont officiellement été lancés vendredi au thème d'une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée pour la première fois en dehors d'un stade. Un spectacle hors norme rassemblant près de 6800 athlètes de 205 délégations qui a vu l'Afrique décrocher ses trois premières médailles en escrime avec le Tunisien Fares Feyjani, médaillé d'argent en sabre individuel battu en finale par le Sud-Coréen numéro 3 mondial Sang-Yu Oh. En épée individuelle, l'Égyptien Mohamed El Sayed sort le bronze après avoir battu le Hongrois Tibor Andrészy lors du match de classement. Médaille de bronze aussi pour l'Afrique du Sud qui a fini troisième du tournoi masculin de rugby à 7 suite à son succès 24-19 contre l'Australie. La journée d'hier dimanche n'a pas été concluante en médailles pour le continent, mais quand même a marqué les esprits avec de bonnes performances de certains athlètes, notamment l'Égyptien Omar Assa en tennis de table, vainqueur en simple homme du Malgache Fabio Rakoto Arimana. En boxe, chez les moins de 72 kilos, le Mozambicain Thiago Musanga passe au second tour après avoir écarté au point l'Allemand Elim Shashidov. Ça passe aussi pour sa compatriote Alcinda Dos Santos qui a éliminé la Slovaque Jessica Triebelova dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et puis en natation, le Sud-Africain Peter Coetzee s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage d'eau en terminant troisième de sa série en demi-finale. Et concernant les sports collectifs, le football a connu des jours sombres. D'abord, chez les dames, les deux représentants ont essuyé leur deuxième défaite. La Zambie, qui menait 5-2 à la mi-temps, a été renversée 5-6 par l'Australie. Le Nigeria, de son côté, s'est incliné 1-0 devant l'Espagne. Un seul résultat positif au niveau du foot masculin, celui de l'Égypte, vainqueur de l'Ouzbékistan 1-0. Défaite 1-0 de la Guinée face à la France, du Mali devant le Japon et puis le Maroc s'est incliné 2-1 face à l'Ukraine. Un revers que tente d'expliquer le capitaine Achraf Hakimi.
Il a manqué, d'expérience, il a manqué de finir les actions. Et on a créé de beaucoup d'occasions et je pense qu'on devait marquer cette occasion qu'on a créée parce que les tournois comme ça et les niveaux hauts, quand tu as de beaucoup d'occasions, tu as besoin de marquer un ou deux buts. Parce que sinon, les autres équipes, quand ils arrivent une fois comme ça passait, il va marquer contre nous et tout possible perdre le match comme ça passe aujourd'hui.
Achraf Hakimi, capitaine du Maroc au micro d'Amine Birouk, notre envoyé spécial au jeu. La suite des résultats. Belle journée pour l'Égypte qui s'est imposée pour son premier match en handball masculin, score 35-32 face à la Hongrie. Entrée réussie aussi pour le Soudan du Sud, succès 90-79 devant Porto Rico. Et puis, très attendu, les États-Unis ont fait forte sensation pour leur entrée en dominant la Serbie 110-84 avec un Kevin Durant monstrueux. Un programme très alléchant également aujourd'hui avec l'entrée difficile sur les parquets de l'équipe féminine du basketball du Nigeria qui affronte l'Australie. Premier match compliqué aussi pour le Kenya opposé au Brésil dans le tournoi féminin de volleyball. Tout comme l'Égypte en handball masculin qui va jouer la première place de son groupe face au Danemark tombeur de la France. Ces Jeux Olympiques de Paris, une première pour beaucoup et un rêve pour certains, notamment l'escrimeuse algérienne Zoa Kelly qui entre en piste ce lundi face aux Tunisiennes Yasmine Dakfous au sabre individuel. Au programme également du judo et la Guinéenne Mariana Esteves fera face à la Guyane Maria Escano dans les moins de 57 kilos dans cette même catégorie. L'Ivoirienne Zuleya Dabon va en découdre avec l'Ouzbek Aminova au niveau des hommes. Dans la catégorie des moins de 73 kilos, le Gambien Fay Ndié sera opposé à l'Espagnol Salvador Roca. Du côté de la bosse féminine, l'Algérienne de 60 kilos, Dunia Khalif joue une place en quart devant la Serbe Natalia Chadrina. Et pour le reste, on aura entre autres de l'escrime et de tennis de table. Voilà, c'est fini pour ce journal des Jeux Olympiques. On se retrouve très vite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Le début de l'hivernage au Mali rime avec le blocage du trafic dans les grandes villes et des cas d'inondation dans l'intérieur du pays. Depuis le 22 juillet dernier, les populations du cercle de Ba dans la région de San ont pratiquement tout perdu sous les eaux. Une chaîne de solidarité se met en place peu à peu pour répondre aux cris de cœur des sinistrés qui ont diffusé de nombreux messages d'appel via les réseaux sociaux. Mohamed Danyoko nous en dit davantage.
Voilà déjà une semaine que le carrefour de Ba ressemble à une grosse mare. Les images de ménages essayant de sauver le peu de meubles qui peuvent encore l'être, d'ustensiles flottant sur les eaux, d'adultes enfoncés dans les eaux jusqu'à la poitrine, font le tour des réseaux sociaux au grand désarroi de Yaya Boiré, un fils de la localité.
L'inondation a commencé le lundi avec 102 mm de pluie. Et après, l'eau est venue arriver quelque part, l'eau de ruissellement est venue quelque part le mardi, qui n'est pas la pluie que Bla a eu le lundi. Et ensuite, avant-hier soir, il y a eu 105 mm de pluie encore qui est venu s'ajouter à la première inondation. En tout cas, les dégâts sont inestimables. Les gens ont tout perdu.
Si la quantité d'eau reçue en moins de 72 heures dépasse 227 mm, cette inondation s'explique, selon Bakary Magané, chef du bureau prévision et alerte de Mali Météo, par la situation géographique de Bla.
Pour le cas de Bla, c'est un cas particulier. Et il se trouve que, d'abord, du point de vue géographique, Bla se trouve dans un bas-fond, naturellement. Donc, ça veut dire que, avec une certaine quantité de pluie, la zone est vraiment inondable tout de suite.
Les ressortissants du cercle de Bla à Bamako ont convoqué une réunion d'urgence le samedi 27 juillet dernier pour la mise en place d'un plan de riposte humanitaire. Le président du comité de crise, Marakatié Daou, nous livre la teneur de cette rencontre.
Nous savons que l'une des choses les plus importantes et les plus urgentes attendue de notre comité est d'apporter de l'assistance et de l'aide humanitaire à nos parents sinistrés, en apportant du matériel médical et des médicaments au centre de santé de référence de Bla, afin qu'ils puissent assurer la continuité des soins. Nous sommes également conscients qu'il faut apporter alors des vivres aux familles qui ont perdu des stocks de céréales dans les eaux, et également en apportant des vêtements, des couvertures et également des moustiquaires aux ménages. Donc ça c'est le plus important et le plus urgent d'ailleurs. Mais l'autre chose est de pouvoir réfléchir sur comment prévenir d'autres cas d'inondation à Bla et dans les villages du cercle.
Ce dernier point est très important car le bulletin de prévision saisonnière 2024 annonce une tendance excédentaire en termes de pluviométrie. Bakary Magané.
La saison a une tendance excédentaire en termes de pluviométrie. C'est-à-dire que le cumul pluviométrique attendu dans plusieurs localités dépasse la normale saisonnière que ces localités connaissent. Voilà. Donc, et ça veut dire que l'excédent est vraiment, la saison sera vraiment excédentaire. du point de vue météorologique.
Cette période, juillet, août, septembre, est celle du pic saisonnier, soit la plus humide avec de fortes quantités de pluie dans plusieurs localités, d'où l'appel de Mali Météo à quitter les zones à fort risque d'inondation. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La Côte d'Ivoire a un taux d'électrification d'environ 90%. Malgré ce taux élevé, le pays traverse quelques périodes de délestage ajoutées à une hausse du coût de l'électricité. Une situation décriée par les ménages et les entreprises. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, nous en dit plus dans ce reportage.
Titou Mohamed est ingénieur dans cette entreprise de BTP à Abidjan. Pour remédier aux coupures de courant, il a dû installer un groupe électrogène. L'appareil est capable d'alimenter uniquement quelques points importants du bâtiment. Écoutons l'ingénieur Titou Mohamed.
Avec la puissance qu'on a, on est plus sûr que l'éclairage est pris afin de travailler en attendant que la CIE nous fasse venir l'électricité.
Ici, les coupures d'électricité viennent environ 2 à 3 fois par mois. Mais dans d'autres communes d'Abidjan, elles vont jusqu'à 4 voire plus. À cela s'ajoute une hausse vertigineuse du coût de l'électricité. Écoutons de nouveau l'ingénieur Titou Mohamed.
Ce qu'on avait l'habitude de payer auparavant, pour une consommation augmentée. Le problème, le souci, c'est qu'on n'arrive pas à justifier. On n'arrive pas à nous justifier le coût de ces factures-là. Il n'y a pas un calcul mathématique qui est fait pour dire, bon, lorsque vous regardez sur votre compteur, vous êtes à tel kilowattheure par exemple, vous faites ce calcul-là pour avoir le prix réel. C'est vrai, dans le sud de la facture d'électricité, c'est mentionné, on fait des détails, mais c'est pas assez précis. Donc du coup, ça vient s'ajouter sur cette charité-là qui est la charité de la vie.
Pour justifier la hausse du coût de l'électricité, l'État ivoirien a évoqué la période de chaleur qui sévit actuellement dans le pays. Il rassure les populations qu'il y aura une baisse du prix à partir du mois d'octobre. Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.
Les factures auxquelles les Ivoiriens ont eu à faire face cette année ne sont pas désormais les factures qu'ils vont payer. Parce que on a tous observé que depuis un moment, la chaleur a commencé à nous dire au revoir et c'est tant mieux. Et que cela peut même, on peut même aboutir à une baisse de facturation qui va non seulement annuler l'effet volume sur la facture, mais annuler aussi l'effet ajustement. C'est vrai, ça a coïncidé avec l'ajustement de 10%. Mais je rappelle que le premier ajustement qui a été fait, il a été fait en juillet.
Après une première hausse appliquée en juillet 2023, la Côte d'Ivoire a augmenté de 10% les tarifs de l'électricité pour l'ensemble des utilisateurs. L'objectif était de sauver un secteur dont les pertes d'exploitation ont atteint 127 milliards de francs CFA en 2023. Ange Bijou Nomenyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Au Cameroun, il n'y a pas eu le succès escompté dans l'opération coup de poing visant à rendre la capitale du pays Yaoundé propre en une semaine. Cette opération a été lancée le 19 juillet dernier par le gouvernement, mais à l'observation, elle est loin d'avoir atteint ses objectifs. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Des tas d'immondices écument encore les rues au centre-ville, les places de marché et plusieurs quartiers de la capitale. Maxwell Akoum réside au quartier Colbison dans le 7e arrondissement.
Ouais, il y a beaucoup d'aujourd'hui parce que vous voyez, il y a aussi une mauvaise détention comme le Camerounais parfois. Il y a aussi des civismes comme le gouvernement dit. Et il y a une mauvaise intention. Pourquoi? Parfois, il n'y a pas aussi des routes. Hein. Les routes aussi causent un problème. Il ne faut pas qu'on oublie le côté. Parce qu'il y a le quartier que Isaac peut bien arriver. Mais il n'y a pas moyen que Isaac descende là. Il y a les mauvaises routes, il y a les...
Au complexe Beyak, dans le 4e arrondissement, l'opération de salubrité a quelque peu changé la physionomie de ce quartier résidentiel. Un bac à ordures a été mis à la disposition des ménages et Jacques Abessolo, un agent d'une société d'hygiène et de salubrité, a été posté pour sensibiliser les habitants.
Parce qu'avant, il n'y avait pas de bac à ordures par ici. C'était un désordre total. Les gens versaient les ordures n'importe où. La mairie et la société se sont engagés à trouver un site pour déposer le bac. Moi, mon rôle, c'est d'orienter la population à ne pas verser les ordures au sol, à verser dans le bac à ordures. Bon, le temps donné que de temps en temps, quand il n'y a personne, il profite pour verser au sol. Mais le bac est déjà là. La population doit savoir qu'il faut mettre les ordures dans un bac, pas verser au sol. Déjà, quand c'est dans le bac, la société vient au moins après chaque deux jours pour transporter le bac et l'amener à une décharge. On doit pas très loin d'ici. Mais moi, déjà, si j'oriente les gens de l'autre côté, vers le ravin pour verser des arbres sèches, c'est pour ne pas étouffer le bac. Parce que vous savez, normalement, dans le bac à ordures, nous devons avoir de l'ordure ménagère. L'ordure ménagère, donc, c'est qu'on peut utiliser à la cuisine, la femme peut utiliser. On ne voudrait pas des arbres, des branches d'arbres ou bien de feuilles.
Les mairies de la capitale, appelées à supplier les deux sociétés, évoquent elles aussi l'absence des moyens financiers. Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7 et président des communes et villes unies du Cameroun.
Le droit d'assise est déjà là. Il est calculé sur une certaine base, mais il faut aussi qu'il soit payé et que la péréquation soit régulée. Et ça a été pris en charge par la présidente de la République pour pouvoir trouver des mesures idoines à déployer pour régler de manière définitive ce problème.
Près de 2600 tonnes d'ordures ménagères sont produites par jour dans la ville de Yaoundé. Certains start-up se sont lancés dans la collecte à l'aide de tricycles. Jacques Laté est employé dans une start-up de collecte d'ordures ménagères.
Bon, on fera l'enlèvement des déchets ménagers. C'est une start-up qui dure. Nous sommes qu'à 3 ans de service. Ça veut dire qu'on travaille 2 fois par semaine. Ça veut dire qu'on vient avec nos propres sachets ou bien nos propres sacs poubelles, on les donne à chaque séance. Comme ça se fait 2 fois par semaine. Ça veut dire que chaque séance, ils ont droit à un sac poubelle. Dans ça, il y a le recyclage. Donc, ça nous facilite le recyclage.
Maintenant, ça a un coût.
Les gens, ils payent ça par mois.
Combien?
Bon, le paiement débute de 3 000 à 5 000.
D'après la mairie de la ville de Yaoundé, il faut 15 milliards de francs CFA par an pour assurer 80% de la collecte des ordures dans la capitale. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Gabon, grand importateur et consommateur de riz avec une dépense annuelle estimée à 250 milliards de francs CFA, est décidé à sortir de cette dépendance alimentaire. Nous vous proposons de découvrir le projet de riziculture mis en place par des chercheurs locaux. 5 ans après, le champ de production de semences donne ses premières graines. Il vise entre autres objectifs la satisfaction de la demande locale en céréales. Voici le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
À plus d'une cinquantaine de kilomètres de Libreville, un imposant champ de production de semences de riz. Le projet pilote de chercheurs gabonais se matérialise. 3 variétés de céréales sur 5 initialement prévues font ce jour l'objet d'une dégustation publique. Parmi les invités, Serge Zengo, un inconditionnel du riz.
Je suis impressionné par la qualité du riz. Je pense que le Gabon peut devenir un des meilleurs producteurs de riz, d'abord dans la sous-région et même en Afrique.
Au milieu des tables dressées sur le site, Adèle, une agricultrice du village, appelle à un engagement plus prononcé des autorités pour garantir le succès de tel projet agricole.
Ici, là, c'est un site de l'agriculture qui a été prêté pour l'expérience. Et nous voulons les terres sécurisées dans nos villages.
Le pays a pourtant tout pour relever le défi de la culture du riz. 22 millions d'hectares de terres disponibles, une pluviométrie abondante, 9 mois sur 12 chaque année. Pourtant, la greffe n'a jamais pris. Question de méthode sans doute. À force de travail, l'initiative portée à bout de bras par Dr Lionel Mukumbi et ses équipes a finalement atteint la promesse des fleurs. De la vie désespère, les importations du riz exposent l'économie du continent aux variations des prix mondiaux. Le Gabon veut donc relever le défi de la production locale pour nourrir sa population. Professeur Albert Ngomanda, commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique.
Le pays produit à peine 1000 tonnes de riz par an. Donc on voit le déficit qu'il y a entre ce que nous mangeons.
Malgré tout, le Gabon rêve d'une révolution agricole qui passera par une production à grande échelle d'un riz local. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Et voilà qui conclut notre journal pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction et de production pour leur travail acharné à la présentation. Nanit Talani à la mise en onde, Fatou Ali Masikalala à la technique, Kelvin Fowler. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet de VOA Afrique et à nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. L'équipe de VOA Afrique par ma voix vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. À bientôt.